Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Fais pas si, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi.
La curiosité.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Fais pas si, fais pas ça. Ah, tada, trop de cadet, ah, cheval.
Fais pas si, fais pas ça. Jacques Dutronc, pourquoi se sert-on la main droite et pas la gauche? Comment se saluent les Japonais? Doit-on souhaiter bon appétit en passant à table? On apprend les bonnes manières, vous l'avez compris, sur RTL, grâce à la journaliste Laurence Caracalla. Bienvenue, on va commencer par ce que l'on fait presque tous, peut-être à tort. Je suis invité à dîner, j'arrive avec des fleurs. Est-ce que c'est une bonne idée?
Moi, je pense que c'est une très mauvaise idée, parce que quand on apporte des fleurs à une dame, cette dame doit trouver un vase.
Ah oui.
Parfois, le vase, il est tout au fond du placard.
Il n'est pas assez grand.
Il n'est pas assez grand. Elle doit faire plusieurs bouquets. Elle va rester 3 heures à la cuisine à faire ce pauvre bouquet. Donc, ce n'est pas très gentil, en fait, d'arriver avec des fleurs.
Alors qu'un virement?
Un virement, c'est bien.
Un virement, c'est vous, Thomas, si un jour vous venez avec votre douze dîner
un
chez moi,
un virement bancaire. Un virement. Vous êtes comme ça, vous.
C'est beaucoup mieux. En tous les cas, une bouteille de champagne fraîche, parce que sinon, ça n'a pas de sens, puisqu'il faut la boire tout de suite avec ses amis. Et du vin, c'est un peu plus compliqué, parce que, comme on ne sait pas, a priori, ce qu'on va manger pour le dîner...
On peut tomber à côté.
On peut tomber tout à fait à côté. En tous les cas, c'est la mode d'apporter systématiquement un petit cadeau dans un dîner. Moi, personnellement, je trouve ça épouvantable. J'ai envie d'arriver dans un dîner les mains vides et ne pas culpabiliser de temps en temps. J'aimerais beaucoup faire ça.
Et puis pour et plutôt les... remercier le lendemain.
Alors, pour les fleurs, en fait, on dit toujours que ce qui est vraiment très, très chic, c'est d'envoyer des fleurs le matin même du dîner pour que la maîtresse de maison ait le temps tranquillement de faire un bouquet, de le poser sur la table si elle veut, en tous les cas dans le salon. Mais on peut aussi le faire déposer le lendemain du dîner également.
Quand on arrive à ce fameux dîner, est-ce qu'il faut embrasser tout le monde comme du bon pain?
Alors, ça dépend de l'âge que vous avez. Si vous avez 15 ans, oui. Si vous en avez 35, non. Moi, je n'en peux plus qu'on m'embrasse sans arrêt.
Plus proche de 35, oui.
Oui. Écoutez, je ne sais pas pourquoi on s'embrasse sans arrêt. Moi, je n'ai pas envie qu'on m'embrasse. Quand je ne connais pas quelqu'un, je n'ai pas envie de me faire embrasser par lui.
Au moins,
donc,
c'est clair.
Je tends la main. En revanche, si la personne en face de moi se penche vers moi et me tend sa joue, je vais évidemment l'embrasser. Je ne vais pas lui dire, écoutez, non, je vous en prie, cher monsieur.
Mais il faut mettre les lèvres ou pas les lèvres?
On est fleurs.
Ah bah oui, quand même.
On est fleurs.
Pas un gros bisou.
Non, pas de gros bisous.
Voilà. Mais moi, alors c'est drôle parce que je ne sais pas si on va s'entendre, parce que j'ai tendance à le faire, notamment quand je vais chez des amis qui sont des amis proches, avec peut-être en tête, c'est inconscient, l'idée que les amis de mes amis sont mes amis.
Bien
vous voyez
sûr,
ce que je veux dire?
Je comprends très bien.
Et donc,
bien.
J'ai tendance, même si je ne les connais pas, à éventuellement les embrasser.
Beaucoup de gens font comme vous. Je trouve que c'est... Moi, si je vous donne... Mon idéal, c'est de ne pas embrasser en arrivant et d'embrasser en partant. Parce qu'évidemment, au bout d'un moment, on a fait ami-ami, et même si on n'a pas vraiment fait ami-ami, on peut s'embrasser. Mais le premier contact... Non, moi je ne veux pas embrasser.
Au moment de passer à table, mon voisin me souhaite bon appétit. Est-ce que c'est un signe de bonne éducation?
C'est le contraire, c'est un signe de mauvaise éducation. C'est un peu idiot de dire ça. En tous les cas, ça ne se dit pas puisqu'on ne parle pas de tout ce qui est intestin.
Oui, j'ai bien compris. On parle du bon menu, des mets qui sont sur la table. C'est pas forcément intestin.
On peut dire, en tous les cas, la maîtresse de maison ou le maître de maison, parce qu'après tout, les hommes font aussi la cuisine, peut tout à fait dire j'espère que ça va vous plaire, etc. Mais jamais parler d'appétit, jamais parler de tout ce qu'il y a dans votre ventre. C'est la même chose pour à vos souhaits quand on éternue, puisqu'on n'est pas censé savoir que vous avez éternué, on n'est pas censé avoir remarqué que vous avez une légère rhinite, on ne dit rien.
Je peux vous dire que quand j'éternue, ça se remarque.
Oui.
Et alors, je ne sais pas éternuer discrètement, donc c'est sympa si on ne me le fait pas remarquer.
Mais personne ne doit vous le faire remarquer.
Oui, mais ça peut être assez joli aussi, à vos souhaits, à vos amours.
Que les tiennes durent toujours.
Non,
c'est joli, mais en tous les cas, dans le
code... On a tout photo, Manon,
depuis
le début.
À côté de la plaque.
Le code du savoir-vivre.
Heureusement, vous êtes là.
Voilà, alors évidemment, ce code de savoir-vivre-là, il est sujet à variation. On peut faire un peu ce qu'on veut.
Je suis sûr que vous allez me sauver. Le plan de table, comment je fais?
Je propose de le faire avant. C'est-à-dire que quand vous savez qui seront vos invités, vous préparez soit dans votre tête, soit sur un petit bout de papier, le plan de table en mettant je vais mettre Jean là, à côté de Nicole, parce qu'il s'entendra bien, etc. Et donc, je le fais un peu avant. Parce que sinon, au moment où on arrive dans la salle à manger, ou en tous les cas, quand on arrive autour de cette table, il y a toujours un moment de confusion.
De flottement, oui,
de
c'est
flottement,
vrai.
On ne sait pas trop. Mais si vous êtes sûr de vous, parce que vous avez préparé votre coup avant, ça va.
Et alors, il y a des règles? C'est-à-dire, C'est-à-dire qu'à côté de la maîtresse de maison, voilà, il y a une personne importante, qui compte.
Oui, ou alors la première fois que vous avez invité un monsieur à dîner chez vous, autant on le met à la droite de la maîtresse de maison, une dame à la droite du maître de maison. En tous les cas, la personne à qui vous voulez faire honneur, vous la mettez à la droite, mais sinon après, homme-femme. S'il y a deux femmes à côté, parce qu'il y en a une, il y a une célibataire ou deux hommes, c'est gentil de ne pas faire remarquer, tu vois, merci, grâce à toi, mon plan de table n'est pas exactement comme je voulais. Oui, ça évite ce genre de réflexion, c'est pas très
on ne l'invite pas, c'est plus simple.
Oh bah non. et vous racontez, vous nous donnez toutes ces bonnes manières et quelques mauvaises dans un livre sans bonnes et mauvaises manières à connaître dans la vie, le guide du bien élevé au Figaro. Et toujours sur ce plan de table, c'est un peu suranné quand même. Il y avait des règles à respecter quand justement il y avait une femme célibataire, il ne fallait pas lui mettre un jeune homme célibataire en face d'elle, sinon c'était une séduction qui s'engageait, c'est
oui,
ça ?
C'est exactement ça, c'est que ça voulait un peu dire soit qu'on était un peu mère maquerelle et qu'on voulait caser un invité avec une autre. Alors c'est toujours un peu délicat parce que l'invité en question a peut-être pas du tout envie de se caser avec qui que ce soit. Donc il fallait mettre au contraire, par exemple, une jeune femme célibataire, un peu vieille fille sur les bords, c'est-à-dire une femme de 30 ans au 19e siècle. On essayait de mettre plutôt une personne un peu âgée avec qui elle n'avait forcément, qui aurait forcément aucune une ambiguïté.
Voilà. Laurence Caracalla, on parlait de la fameuse bise. Alors vous préférez que quand on arrive à un dîner, le savoir-vivre recommande de ne pas embrasser tout le monde comme du bon pain. En revanche, on peut s'embrasser après et pourquoi pas quand on se recroise dans la rue. Mais alors, il y a la question du nombre de bises. Combien on fait de... Parce que moi qui ai déménagé dans toute la France, je crois que j'ai fait un nombre de bises. Oui. J'en ai fait deux, j'en ai fait une et j'en ai fait quatre.
Une, c'est assez rare en France, c'est quand même plutôt deux. En tous les cas, à Paris et dans certaines grandes villes. En province, on peut en faire trois ou même quatre. Pourquoi moi je dis qu'il faut en faire que deux? Parce que d'abord on a deux joues. Alors je ne sais pas pourquoi on doit renouveler un mouvement qu'on a déjà fait une fois. On a deux joues, on fait deux baisers, voilà, terminé.
Je suis sûr que nos auditeurs qui en font trois ou quatre dans certaines régions se disent c'est un peu du snobisme parisien.
Alors
ça.
C'est un peu de snobisme parisien, on est tout à fait d'accord, parce qu'on trouve ça un peu étrange quand on va en région et qu'on se fait embrasser trois fois. Oui, mais je suis parisienne et sans doute au fond un petit peu snob, mais bon, je l'assume, c'est comme ça.
Et j'ai lu dans votre livre qu'en Amérique du Sud, on s'embrassait souvent trois fois et il y a un lien avec la religion.
Oui, parce que c'est la Sainte Trinité, donc c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et chaque baiser représente effectivement ces trois figures chrétiennes. Donc c'est une coutume qui existe là-bas depuis toujours.
Après les infos, on continue de passer en revue quelques bonnes manières et on en a tous besoin.
Vous écoutez RTL. RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Merci d'écouter RTL en général et la curiosité en particulier en cette soirée de Noël. Ouais, restez là. On est exceptionnellement ensemble jusqu'à 23h et ça nous fait très plaisir. En fin d'émission, vous saurez tout sur l'histoire du timbre.
Mais pour l'instant, allez, d'autres leçons de très bonnes manières.
Pas facile de s'orienter dans le dédale des bonnes manières. Un conseil, suivez le guide.
RTL.
Le maître et la maîtresse de maison reçoivent face à face au milieu de la table.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Si nous étions à la cour d'Angleterre chez Kate et William, on serait différemment. On préside au bout de table.
RTL.
Apprenez les bonnes manières grâce à notre guide Laurence Caracalla qui publie le guide du bien élevé, livre édité par le Figaro. Dans ce livre, il y a plusieurs exemples sur la façon de dire bonjour. Alors ça semble très simple et pourtant c'est tout un art. Démonstration dans cette scène du film Itinéraire d'un enfant gâté.
Je dis que tu vas apprendre à dire bonjour. La chose la plus importante dans la vie. Si tu dis bien bonjour, t'as fait la moitié du chemin. Dis-moi bonjour.
Bonjour.
Non, là, t'as l'air de me dire au revoir. Dis-moi vraiment bonjour.
Bonjour.
Non, dis-moi bonjour comme si j'étais un malade.
Bonjour. Non, je l'ai loupé celui-là. Je m'en suis rendu compte après. Mais... Bonjour.
Voilà, tu vois. Tu le sens de toi-même maintenant.
Ouais. Hein? Je peux sourire en même temps.
Tu peux aussi, on sent dedans une certaine compassion.
Bonjour.
Pas trop de sourire. Non, tu vois.
Génial. Jean-Paul Belmondo, Richard Anconina, scène légendaire de ce très beau film de Claude Lelouch, évidemment. Pourquoi, Laurence Caracalla, est-ce si important de savoir dire bonjour ?
Déjà, vous n'aurez pas, vous savez, l'expression, vous n'aurez pas deux fois l'occasion de faire une première bonne impression. C'est, je me trompe un peu, mais c'est un
non,
peu
c'est ça.
Ça.
C'est ça.
Dire bonjour, en tous les cas, c'est la première fois que vous avez accès à quelqu'un en face de vous. Et donc, c'est essentiel de savoir dire bonjour. Par exemple, se serrer la main. Il se trouve que nous, les Français, on est un peu les champions du monde du serrement de main. Je pense qu'il n'y a pas... Il n'y a aucun autre pays au monde qui savent aussi bien serrer les mains que nous. C'est notre truc, on a toujours fait ça, on nous apprend ça depuis qu'on est tout petit. Et il y a une manière particulière de serrer la main.
Alors, c'est quoi la bonne manière ?
C'est de regarder droit dans les yeux. Non, avant toute chose, c'est de sourire. Avant, serrer la main, savoir serrer la main et ne jamais sourire, ça ne sert à rien. Autant dire que vous avez été grossier tout de suite. Donc, on sourit, on regarde droit dans les yeux, mais surtout pas de main molle, parce que tout de suite, on se dira de vous que vous êtes quelqu'un d'un peu mollasson. C'est pas très agréable. Donc, on serre la main. Plutôt une main franche, on secoue la main deux fois, on le fait automatiquement. Et surtout, regardez bien dans les yeux, souriez, soyez avenant et aimable.
Souvent, les hommes serrent la main un peu fort aux femmes.
C'est aussi une question de taille. Enfin, pardon, mais quand on est un joueur de rugby avec un battoir, pas possible.
Alors, le joueur de rugby, j'en connais quelques-uns qui serrent la main de manière très douce. Donc, je pense que ce n'est pas une question de taille de main. Certains hommes, effectivement, serrent très fort pour vous prouver, Sidonie, qu'ils sont très virils quand même. Alors, si vous avez, non seulement ça fait mal, mais si en plus vous avez une bague, comme ça arrive souvent, c'est terrible, vous pouvez souffrir le martyre.
Est-ce que vous avez quelque chose
Moi,
pour
je fais une
répliquer.
Petite grimace. Et en général, ils ont compris qu'ils m'ont fait mal et qu'il ferait bien de faire attention.
Ah, donc, si vous nous écoutez, que vous êtes attentif et que vous avez tendance à serrer la main un peu fort aux dames, mollo les garçons.
Pas mou, mais mollo.
Calmez-vous. Savoir se présenter, c'est très important. Savoir présenter une personne à une autre.
Oui, alors c'est très facile, mais il faut juste le savoir. En fait, la personne la plus importante, alors ça peut être la personne la plus âgée, une femme vis-à-vis d'un homme, je sais pas,
son patron vis-à-vis d'un salarié,
doit avoir le premier l'information. C'est-à-dire, je suis dans la rue, je suis avec un copain de mon âge, je croise mon grand-père. Je veux présenter mon ami à mon grand-père. Mon grand-père doit savoir en premier qui est la personne qui lui fait face. Donc je lui dis, grand-père, papy, pépé, je te présente mon ami Thomas
Hugues. Je suis content d'être devenu votre ami, parce que ça n'avait pas très bien commencé entre nous. Je voulais vous faire la bise, vous n'avez pas voulu. Déjà, ça s'améliore, ça serait chaud.
Ça va être terrible. Donc, je dis Thomas, même Thomas Hugues. C'est aussi bien aussi de dire le nom de famille.
Est-ce qu'il faut dire ce qu'il fait, par exemple ? Alors, il faut donner sa fonction pour donner plus d'infos ?
Oui, je trouve que c'est pas mal pour qu'ils engagent la conversation. Je te présente mon ami Thomas Hugues. Tu sais, mon ami qui est journaliste, qui travaille
avec super journaliste Sidonie Bonnec.
Voilà, qui travaille avec Sidonie Bonnec.
Qui est un peu mégalomane, elle est sympa, Sidonie, mais un peu mégalo. Elle aime bien qu'on parle d'elle tout le temps.
Enfin, c'est long comme présentation.
C'est un peu trop long.
Non, mais c'est bien parce que ça permet donc à ce grand-père, par exemple, non seulement de connaître le nom de mon ami, mais en plus de pouvoir engager la conversation.
Oui,
ah, c'est vous,
sûr.
Vous êtes dans la presse, très bien, les journalistes. Oh mon Dieu.
Là, on donne une piste pour briser la glace. En
voilà,
fait.
Mais parfois, ça a dû vous arriver. On est avec un ami, on veut présenter la personne qu'on croise et on ne se rappelle plus du prénom.
Ah, c'est
vous
alors
savez, c'est comme un acte manqué. C'est un prénom qu'on prononce tout le temps, on n'arrive plus à s'en souvenir.
Non, ça arrive sans arrêt. Donc moi, soit je ne présente pas, quitte à passer pour quelqu'un de grossier, soit je fais en sorte que alors, Jacques Chirac avait, lui, une très très bonne idée, et ça lui arrivait évidemment sans arrêt, donc il présentait quelqu'un en lui disant « Mais rappelle-moi ton nom ». Donc le type disait Dupont, il disait « Mais non, mais Dupont, ça, je le sais, c'est ton prénom qui m'échappe ». Comme ça, en deux minutes,
joli.
Il avait les deux.
Oh, c'est magnifique.
Donc, je vais la mémoriser, celle-là, parce que
c'est pas mal,
j'ai beaucoup
c'est
de
pas
mal
mal.
À mémoriser les noms et les prénoms. « Rappelle-moi ton nom », mais non, c'est ton prénom,
voilà.
Dont je ne me souviens pas très bien. Merci beaucoup, Laurence. Caracalla. Alors, vous n'êtes pas historienne, mais quand même, le serrage de main, ça, est-ce qu'on sait quand ça date, à quand ça remonte ?
On dit toujours que ça date du Moyen-Âge, à l'époque où on voulait montrer qu'on n'avait pas d'armes et qu'on tendait la main. Mais j'ai lu il n'y a pas très longtemps que même dans l'Antiquité, on se serrait la main. Alors, de manière beaucoup moins quotidienne que nous, mais ça existait. Alors, parce qu'ils avaient un poignard souvent caché dans leur manche de la main droite, puisqu'il y avait très peu de gauchers. Vous savez qu'on les contrariait, les gauchers. Et que donc, c'était en tous les cas au Moyen-Âge prouver qu'on était désarmé et que l'on pouvait discuter tranquillement sans avoir peur de recevoir un coup de poignard.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.
Après les infos, on continue de passer en revue quelques bonnes manières et on en a tous besoin.
RTL. Vous écoutez RTL.
Est-ce qu'il y a un secret pour un dîner harmonieux? Écoutez, le dîner harmonieux, c'est d'abord...
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec.
On tient pas sa fourchette comme ça.
On pique.
On appelle la méthode piquer.
Thomas Hugues.
Le couteau, il sert pour deux choses. C'est la viande et le fromage.
RTL.
Laurence Caracalla, je rappelle que vous êtes journaliste et que vous publiez un guide du bien élevé aux éditions du Figaro. La reine d'Angleterre, c'est vraiment le sommet de la bonne éducation?
J'imagine, je la connais pas très bien à vrai dire, je l'ai peu rencontrée, mais j'imagine que non seulement elle est très bien élevée, mais qu'elle a, elle, en tous les cas, un code à suivre qui doit être très compliqué. Et...
Elle a dû prendre des cours de bonne éducation,
non,
j'imagine.
Je ne crois pas qu'elle ait pris des cours, non, parce qu'elle a été élevée quand même entourée de nurses qui ont dû lui apprendre très vite comment se tenir, même toute petite fille, puisqu'elle a été, comme vous le disiez, reine très très jeune.
Hein. Est-ce qu'il y a des règles de savoir-vivre qui sont très différentes de ce qu'on pratique en France?
Très différentes, non, parce qu'on est quand même dans un pays occidental, mais il y a quand même des règles un petit peu différentes. Par exemple, à table, entre deux cuillerées ou
de boucher,
on doit mettre sa main sur le genou, ce qui ne se fait évidemment absolument pas en France, puisqu'on doit toujours garder les mains sur la table. Ou alors, il y a ces histoires de fourchette. Quand vous dressez une table en France, vous mettez toujours les dents de la fourchette contre la nappe, alors qu'en Angleterre, c'est le contraire.
Pourquoi ?
Parce que les armes en France sont gravées dans un sens, justement, et qu'on les voit lorsque les dents sont sur la nappe. Et en Angleterre, elles sont gravées dans un autre sens. Et pour les voir, il faut que les dents soient au plafond.
Mais ça veut dire que si aujourd'hui en France on met la fourchette à l'anglaise, on fait une faute de savoir-vivre?
On fait une faute de savoir-vivre, peut-être pas.
De bonne manière.
Une faute de bonne manière. Dans les restaurants, même les plus grands restaurants, ils font très très souvent cette faute-là. Donc vous savez, les choses évoluent.
Comment on dit bonjour, tiens, en Angleterre? Vous parliez de notre proportion à serrer les mains tout le temps, en toutes circonstances. Est-ce que c'est pareil là-bas?
Alors les Anglais, ils sont pas très. Nous, faut jamais oublier que les Français, on est quand même des Latins, hein, donc on a des tendances à se jeter dans les bras les uns des autres. Les Anglais, c'est pas du tout leur truc. Alors ils sont très polis, très bien élevés, très gentils, très chaleureux, mais un petit un bonjour de loin, un hello de loin, how do you do de loin, mais de là à vous tendre la main, non, parce que c'est pas du tout dans la coutume anglaise, à moins que ce soit un peu le cas dans les affaires en tous les cas, mais dans le privé on se serre pas la main, on se dit bonjour comme ça, un grand sourire et ça suffit largement.
Et par exemple le hug américain, évidemment ça se pratique pas en Angleterre.
Non.
C'est vraiment très, très chaleureux quand même. C'est encore plus intime, je trouve, que le bisou.
Ça, c'est l'excès, on va dire, des Américains qui en font toujours un petit peu trop. Vous savez, c'est comme quand vous rentrez dans un magasin et qu'on vous dit bonjour, comment allez-vous? Je suis tellement
heureuse
de vous
servir.
Quel est votre prénom? C'est le côté qui est un peu rigolo là-bas. Effectivement, parfois, pas toujours, mais parfois, ils se font ce hug où ils se tapent dans le dos en se prenant dans les bras.
Ils se serrent même parfois.
Ils se serrent, oui, c'est une façon pour eux de se dire bonjour, un peu se mettre en spectacle aussi quand même.
Allez, on continue notre tour du monde des bonjours. Comment se salue-t-on au Japon, Laurence Caracalla?
Alors au Japon, on se fait un petit hochement de tête. Évidemment, alors dans beaucoup, beaucoup de pays orientaux comme ça, on ne s'embrasse pas, on ne se touche pas tellement. Encore une fois, sans doute dans les milieux d'affaires, ça a beaucoup changé. Mais en tous les cas, si vous croisez une femme japonaise, n'essayez même pas de l'embrasser, enfin, ça serait complètement incorrect, hein. Ça ne se fait absolument pas.
En Inde aussi, le bonjour se fait sans contact physique?
Sans contact physique, aucun.
On joint les mains, c'est ça?
On joint les mains, ouais. Et on baisse la tête. Alors on ne reprochera absolument pas aux Européens, par exemple, de ne pas exactement savoir faire un salut correct, mais il faut en tous les cas savoir qu'on ne s'approche pas d'une femme, bien sûr.
Mais c'est vrai que l'intimité, ça dépend des moments de la vie. Par exemple, en Inde, pour y être allé, on voit des hommes se promener main dans la main, ils ne sont pas ensemble, ils sont amis, mais ils se tiennent main dans la main. En France, on ne ferait pas une chose pareille, Thomas.
Non, dans
vous
les
ne vous promenez pas main dans la main avec votre meilleur ami.
Dans les pays du Maghreb aussi,
oui,
c'est
pour
normal.
Pour trouver une grande amitié entre deux hommes, ils se tiennent effectivement là. J'en ai vu beaucoup au Maroc.
Donc c'est vrai que le toucher, ça dépend des moments.
Avec les femmes, vraiment.
Mais pas avec les femmes. Laurence Caracalla, de quand datent ces règles de politesse que vous détaillez dans votre livre publié par Le Figaro? Est-ce qu'elles ont toujours existé?
Je crois que au Moyen Âge, ça a commencé un petit peu à il a commencé à y avoir quelques règles ensuite à la Renaissance qui ont évolué un petit peu. Après, il y a eu la Révolution française qui ont cassé tout, puisque tout ce qu'il y avait sous la cour de Louis XIV, XIV aussi, il y a eu beaucoup de règles qui ont été mises en place à la cour de Louis XIV. Évidemment, à la Révolution française, la première chose qu'ils ont voulu faire, c'est casser totalement toutes ces règles-là. Par exemple, on ne devait plus dire monsieur et madame, mais citoyen, citoyenne. On ne devait plus se vouvoyer, mais tout le monde devait se tutoyer.
Ça a duré
mais
combien
le problème,
de temps, ça,
ouais. c'est que ça n'a pas duré, puisque ça n'a pas marché. Les gens n'arrivaient pas à se tutoyer, n'arrivaient pas à dire citoyen, citoyenne. Et donc, puis, quand Napoléon est arrivé, toutes ces règles-là sont revenues. Et au 19e, il y a eu énormément de livres sur le sujet.
Ah oui, justement, vous êtes dans une lignée de,
oui,
de,
oui,
de guides de bonne manière. Je crois que vous parlez dans votre livre d'un des premiers guides qui a été publié par une baronne.
Une fausse baronne,
c'est ça ?
Alors, j'avais d'ailleurs écrit un livre où j'avais repris tous les propos de la baronne Staff et je les avais actualisés, parce que c'était très marrant de ce qu'elle racontait sur le savoir-vivre du 19e. La baronne Staff, elle s'appelait Blanche Soyer. C'était une petite dame qui habitait en province et qui n'avait jamais connu les ors de la haute société, mais elle avait un bon sens extraordinaire et elle a réussi à faire ce guide qui est devenu un best-seller à la fin du 19e. Je ne sais pas combien d'exemplaires on a vendu, tout le monde avait ça dans sa bibliothèque.
Quand on est comme vous journaliste et qu'on travaille sur cette matière qui sont les bonnes et les mauvaises manières, est-ce qu'on attend de vous forcément que vous soyez toujours parfaite ou que vous avez des exigences assez pointues avec vos amis, vos proches, votre famille ?
Alors, les cordes étant les plus mal chaussés, il n'y a pas plus grossier que moi. Je dis des gros mots absolument sans arrêt, je fais des fautes sans arrêt. Mais c'est vrai, bon, ma famille sait très bien comment je suis et c'est très bien que je ne suis pas du tout la reine du savoir-vivre. En revanche, il y a plein de gens que je ne connais pas très bien et qui me disent toujours « Ah là, je suis un peu angoissée de déjeuner à côté de toi parce que... » Or, évidemment, la politesse de toute façon voudrait que je ne fasse pas de réflexion.
Bah oui, on est tranquille alors.
À tous les gens grossiers que je rencontre et j'en rencontre pas mal.
Laurence Merci Caracalla, beaucoup. Vous publiez 100 bonnes et mauvaises manières à connaître dans la vie, publié par le Figaro et avec des dessins, vous vouliez citer du dessinateur Pascal Gaufre.
Oui, que j'aime beaucoup. J'ai trouvé que je ne le connais pas du tout, donc c'est vraiment simplement j'ai trouvé qu'il avait tout à fait traduit l'esprit de ce livre un peu rigolo et instructif.
Élégant.
Vous écoutez RTL.